1h05, la dernière partie de la Grande Table, Olivia Gesbert.
L'actualité des idées tout de suite dans cette dernière partie de la Grande Table. L'actualité des idées avec vous, Antoine Mercier, vous restez avec nous jusqu'à 13h30. C'est en fait une lettre à la jeunesse. Faut-il avoir presque 80 ans, être disciple de Platon pour s'autoriser à donner une leçon d'avenir? Des leçons de sagesse aussi, comme un vieillard qui connaît les dangers de la vie, tel qu'il l'écrit. Comme Stéphane Hessel appelait en 2010 à refuser la pire des attitudes, l'indifférence, dans son manifeste Indignez-vous. Lui veut corrompre la jeunesse en parlant de ce que la vie peut offrir, des raisons pour lesquelles il faut absolument changer le monde et qui impose de prendre des risques. Quelle vie ? La vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde, prétend Rimbaud dans ses délires. Le philosophe Alain Badiou, auteur en cette rentrée de La vraie vie chez Fayard, est notre invité. Après le siècle et De quoi Sarkozy est-il le nom ? Des ouvrages sur Platon, le communisme, la démocratie, les mathématiques, le bonheur et même l'amour. Après Notre mal vient de plus loin, publié dans la foulée des attentats du 13 novembre dans la collection Ouverture de Fayard, Alain Badiou appelle en cette rentrée à la corruption de la jeunesse. Bonjour.
Bonjour.
Comment allons-nous, Alain Badiou, à vos yeux, ce nous collectif, cette société ?
Écoutez, je crois qu'il serait difficile de dire que nous allons très bien. En même temps, je ne fais pas profession de pessimisme, de noirceur, etc. Donc ce que je pense, c'est que nous pourrions aller mieux. Voilà, c'est ce que je répondrai à votre question.
Et vous, comment allez-vous, ce vous subjectif ?
Moi, je veux aussi bien qu'il est possible à mon âge. Hein. Je ne me plains de rien.
Qu'est-ce qu'une vraie vie, Alain Badiou ? On va tenter de le définir ensemble. Une vie qui vaut la peine de vivre ou d'être vécue, qui sait se détacher de l'argent, des plaisirs et du pouvoir ? Ce serait ça l'idée de départ de cet essai que vous signez en cette rentrée chez Fayard ?
Oui, je crois que par vraie vie, il faut entendre principalement un chemin qui est découvert par celui qui est concerné. C'est-à-dire un chemin de la vie qui n'est pas imposé par les circonstances, imposé par les coutumes, imposé par l'ordre planétaire des choses, le capitalisme mondialisé, etc. Mais un chemin dans lequel on peut reconnaître qu'on participe de quelque chose qui a une valeur, qui a une valeur universelle si possible. On est un élément actif de la création d'un monde qui vaudrait la peine d'être vécu. C'est ça la vraie vie.
Telle
que je l'entends.
Une vie qui compte, oui, selon ces valeurs-là. La conviction de Socrate est que la jeunesse a deux ennemis intérieurs, écrivez-vous Alain Badiou, et un dilemme stérile. Quelles sont ces deux tentations, ces deux passions auxquelles les jeunes sont aujourd'hui soumis, d'après vous, ces chemins qu'on leur propose et dont ils devraient peut-être apprendre à se méfier pour trouver la troisième voie, quelque part, que vous appelez de vos voeux ?
Oui, alors, on voit bien que d'un côté, les jeunes sont sommés, en quelque sorte, de s'intégrer, comme on somme les étrangers de le faire. C'est-à-dire, ils sont sommés de trouver une place dans le monde tel qu'il est, d'entrer dans la compétition, la concurrence, de créer des start-up glorieuses, etc. D'un côté, de réussir dans la compétition planétaire. Et puis de l'autre, si c'est pas ça, alors c'est no future, c'est la consommation immédiate de la vie, c'est je fais ce qui me plaît et puis après on verra bien, et ça peut prendre cela des formes extrêmement agressives et nihilistes à l'égard du monde tel qu'il est, où d'une part on n'a pas trouvé la place qu'on souhaitait, et où d'autre part le chemin de la vie semble absolument étranger à ce qu'on désire. Donc je crois qu'effectivement ces deux figures, ces deux postures, l'une qui tend vers le conservatisme, finalement, une espèce de conservatisme rajeuni, et l'autre qui tend vers une forme de nihilisme, l'une comme l'autre, à mon avis, exprime quelque chose qui a à voir avec la pulsion de mort. C'est-à-dire, il y a deux façons de mourir, n'est-ce pas ? Tranquillement dans son lit, comme s'il ne se passait plus rien, ou au contraire, dans l'agression et le désordre. Il faut aussi ce qui nous est proposé aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un triste choix, quoi. Voilà.
Passion de mort plutôt que passion de vie pour vous, Alain Badiou, entre cette passion, ou cette pulsion de mort plutôt que pulsion de vie, pardon, entre cette passion de brûler ou cette passion de construire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que dans les deux cas, la construction comme le refus de l'intégration sont mortifères aujourd'hui. Le point principal, c'est sans doute que ce qui est proposé de positif est entièrement dépendant du monde tel qu'il est, c'est-à-dire quand même d'un monde la sauvagerie concurrentielle, de la nécessité de ne pas être un loser, de la nécessité de trouver une place symboliquement représentative et monétairement rentable dans le monde tel qu'il est. Cette proposition est la proposition d'une construction morose et cynique en même temps, qui probablement se heurte quand même aux traces subsistantes de romantisme et de désir d'absolu qui caractérisent quand même encore une partie significative de la jeunesse.
Sur cette idée de construction de tout temps quand même, je ne suis plus jeune et vous non plus Alain Badiou, mais nos parents nous ont appris quelque part à nous construire, à construire nos vies, et dès l'école on apprend aussi à essayer de trouver notre place, une place dans la société qui nous entoure, non ?
Oui, mais ça dépend du signe sous lequel on le fait. Ben, moi, j'ai été jeune en effet il y a assez longtemps, mais ce qui caractérisait l'époque, c'était que la conviction était absolument répandue de façon universelle, qu'il existait le monde tel qu'il est et la possibilité d'un autre monde. Alors la possibilité d'un autre monde, ça peut être une possibilité religieuse et mystique, mais ça peut être aussi la possibilité d'un autre monde social, collectif, politique, matériel, etc. Et l'arrière-plan des choix de vie se faisait quand même sur cette conviction qu'il y avait deux possibilités. Quoi qu'on en pense par ailleurs, la victoire incontestable du capitalisme mondialisé fait que pratiquement le monde aujourd'hui est potentiellement unifié et que le choix est imposé. Le choix est imposé.
Antoine Mercier.
Victoire du capitalisme mondial. Mais vous expliquez bien dans votre livre comment vous voyez le processus à l'œuvre. Vous avez ouvert le moteur de la dégradation et vous nous dites... Finalement, tout s'est effondré. Il y a des choses qui se sont effondrées, on va dire les verticalités, les structurations, les rites d'initiation.
Les hiérarchies.
Se sont effondrées, alors qu'avant, bon, évidemment, elles étaient, vous le dites, contraignantes parfois, il fallait s'en débarrasser peut-être, mais le fait est que s'effondrant, nous voilà revenus ou arrivés dans un monde horizontal où il n'y a plus de sujet. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément cette chose qui peut vous faire passer quand même peut-être pour un petit néo-réac, disons, à la base ?
Écoutez, ce que je pense, c'est la chose suivante. La question fondamentale du monde contemporain, bien entendu sur un support matériel qui est de l'ordre de ce que vous dites, est une question symbolique. C'est-à-dire la construction de soi-même, la construction d'un sujet, c'est une question de place, de matérialité, mais c'est une question aussi de reconnaissance, de valorisation de soi-même qui touche à l'ordre symbolique. Alors quel est l'ordre symbolique qui nous est proposé aujourd'hui ? Voilà la question.
Enfin, il faut nous dire peut-être l'ordre symbolique. Dites-nous un peu ce que vous réexpliquez-nous ce que voilà, vous entendez par ordre symbolique.
Ben, l'ordre symbolique, c'est tout simplement le système de valorisation de ce qu'on fait. C'est-à-dire le mode propre à travers lequel on juge soi-même ce qu'on fait comme étant intéressant, très particulier, universel, etc. Or, le principe aujourd'hui unique, c'est celui de la réussite effective. Donc sa valeur symbolique est une valeur qui se confond avec sa valeur de fait. Hein. C'est ça le problème. Alors bien entendu, ceci déchaîne des courants réactionnaires qui en appellent aux vieilles valeurs, au vieux monde. Ils disent, refaisons la religion, refaisons le respect parental, que les pères soient vraiment des pères, etc. etc. Et je comprends bien que tout ça puisse être qualifié par les jeunes de régressif. On ne reviendra pas sur ce que le capitalisme a détruit. Ça, Marx déjà l'annonçait. Les vieilles valeurs, les vieilles hiérarchies, le sacré, tout ça, ça ne va pas durer longtemps avec le capitalisme et son ardeur combative du côté de la matérialité. Et le problème, c'est de savoir si c'est remplacé par quelque chose ou pas. Alors moi, ce que je dis, c'est que une vie qui n'est que la vie combattante pour la place qu'il faut y occuper, c'est une vie qui peut être vécue par les jeunes comme une vie désertique. Voilà.
Malgré tout, vous avez cet ancien système de valeurs qui donnait précisément cet ordre symbolique. Est-ce qu'il ne faut pas y revenir, pas forcément à ce système, mais à un autre système de valeurs, ou est-ce qu'on peut carrément changer le logiciel de la constitution de l'ordre symbolique ?
Je pense que changer le logiciel de la manière dont un sujet devient advient dans le monde comme capable d'apprécier lui-même ce qu'il fait, ça ne peut pas être abandonné. C'est une question inhérente, naturellement, à la construction subjective en général. Et la tentation aujourd'hui, c'est presque d'abolir la subjectivité elle-même, comme on le voit dans le côté mortifère, j'y reviens, des actions ou des choix d'un certain nombre de jeunes. Donc, cette question de la destruction sans transformation sans nouvelle proposition d'un ordre symbolique ancien, c'est une question dramatique, et je pense que quand Freud parle de malaise dans la civilisation, c'est déjà ça qu'il désignait, à propos notamment des massacres aveugles de la guerre de 14, qui était l'arrière-plan pour lui de cette crise. Et donc nous avons une crise de civilisation, et cette crise de civilisation, les jeunes, ceux qui arrivent, ceux qui sont sur le bord du monde tel qu'il est, se demandent comment ils vont pouvoir y entrer, comment ils vont pouvoir le juger, et comment surtout ils vont pouvoir se juger eux-mêmes. Parce que ce qui guette une partie très significative de la jeunesse, notamment masculine, c'est une profonde dépréciation de soi-même. Ça, je le vois chez les jeunes. Il y a une dépréciation qui tient à une difficulté, à une incapacité à saisir dans le monde ce qui pourrait valoriser ce qu'ils y font.
Différente de la vôtre, vous décrivez donc une jeunesse errante, sans rite d'initiation, presque homogène, sous le joug de l'économie, désorientée, en somme, Alain Badiou. Alain Badiou réactionnaire, c'est la question que profilait Antoine Mercier à l'instant. En effet, on a du mal à comprendre dans cet essai si vous constatez simplement la disparition de cet ordre symbolique ou si vous le déplorez.
Je suis tout à fait convaincu, je viens de le dire, qu'on ne reviendra pas à l'ordre symbolique hiérarchisé, vertical, transcendant, religieux et au système de la moralité ancienne.
Vous absolument. En êtes convaincu, mais vous le déplorez, c'était mieux avant ou
non,
pas
Non, c'était non, c'était pas mieux avant.
Il faut passer à autre chose.
C'est pas du tout ce que je veux dire, c'était pas mieux avant. Au contraire, il y a une irréversibilité dans l'entreprise négative et destructrice du capitalisme telle que Marx l'a décrite dès le début. Il a tout de suite vu que l'ordre symbolique ancien ne résisterait pas à cette poussée. Et donc, la situation est là, et qu'on a le choix entre deux visions de cela, deux visions de cette catastrophe du symbolique. Ou bien on considère qu'il faut s'installer dans cette destruction, ce qui revient à dire qu'il faut continuer comme c'est, à peu près, ou radicaliser même ce qu'il y a, c'est-à-dire, au fond, les valeurs à signification universelle, tout ça, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne place dans le monde de la compétition universelle, et puis voilà, hein. On peut faire ça. À mon avis, ça conduira inévitablement à la guerre et à la destruction. Ça, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, la guerre monte, la guerre rampe quand on regarde le monde avec un œil un peu attentif. Et puis, l'autre choix, c'est de construire une symbolisation nouvelle. Et ce que je propose dans mon livre, c'est que, à la différence de toutes les symbolisations antérieures qui ont toujours été hiérarchiques, je propose qu'on tente le chemin d'une symbolisation égalitaire.
Voilà. Alors justement, pour comprendre ce changement, il faut, selon vous, introduire le motif essentiel de la différence des sexes. On y va ? Privés de rites initiatiques, les garçons sont devenus des sortes d'adolescents éternels pour vous. Quels étaient ces rites qui les structuraient jusqu'ici dans leur figure masculine ou dans cet accomplissement-là?
C'était des rites d'initiation. On les a appelés comme ça à propos... l'anthropologie les a appelés comme ça à propos des sociétés primitives. Mais en fait, il y a toujours eu, jusqu'à une période tout à fait récente, qui est même postérieure à ma propre jeunesse, il y a toujours eu des rites d'initiation qui pouvaient être des modes d'incorporation dans la collectivité, qui désignaient le passage de l'enfance, de l'adolescence à l'adulte. Le dernier rite que nous avons connu, c'est le service militaire, de toute évidence.
Remplaçait la chasse, peut-être, alors, c'est ça.
Oui, c'est un peu le même ordre de choses. Disons, le maniement du fusil, de façon générale. C'était un peu ça. Et puis, pour les filles, on sait très bien, c'était le mariage. Elles étaient donc adoubées dans la société par la médiation d'un homme. Alors, vous comprenez bien que je ne pense pas du tout qu'il faille restaurer le service militaire ou restaurer le culte de la virginité et du mariage qui ne serait pas pour tous, justement. Absolument pas. Tout ça a été détruit, j'y reviens, et cette destruction était inévitable et légitime. Et en un certain sens, c'est la part négative d'un progrès de l'humanité. Ceci dit, ce progrès, s'il ne nous donne que sa part négative, va laisser beaucoup de gens, et beaucoup de victimes, et beaucoup de dégâts sur la Terre.
Mais concernant les femmes, vous dites que dans ce contemporain dominant, elles sont en train de devenir une sorte d'armée de réserve du capital.
Si elles y prennent pas garde.
Triste destin aussi, selon vous.
Mais oui, alors on ne va pas revenir sur Hillary Clinton. Hein,
mais s'y revenez, ça peut éclairer effectivement ce que vous essayez de dire.
On pourrait aussi parler d'Angela Merkel. Mm-hmm. Enfin, les, Il y a de plus en plus de grandes figures dirigeantes, politiques, économiques, sociales, du côté féminin. Et je pense que c'est parce que la crise du symbolique n'est pas vécue de la même façon par les jeunes hommes et par les jeunes femmes.
Justement, voilà. Je crois qu'il faut bien revenir là-dessus, parce que vous parlez de projet égalitaire. Or, voilà que dans votre livre, vous, dans un premier temps, vous vous adressez à tous les jeunes. Et puis après, chapitre 2, à propos du devenir contemporain des garçons. Chapitre 3, à propos du devenir contemporain des filles. Voilà que vous réinstaurez une brisure qui est de, plus que de l'ordre symbolique, a priori, pour parler de l'avenir, alors que précisément vous parlez d'un avenir égalitaire.
Oui, mais vous confondez là égalité et identité. Je ne suis pas du tout partisan de ce que règne dans
pour
le
la
monde
théorie du genre.
Une identité universelle, y compris une identité des genres, absolument pas. Je m'intéresse vivement à la différence entre hommes et femmes, parmi beaucoup d'autres différences symboliques tout à fait importantes. Je remarque simplement que, d'une certaine façon, on est dans un moment de brouillage, voire d'inversion de cette différence, du point de vue du rapport au symbolique tel qu'il se présente aujourd'hui. En réalité, on peut absolument soutenir que il y a un réel mouvement d'émancipation des femmes à travers cette négativité. Évidemment, je le reconnais moi-même. Elles sont infiniment plus libres de leur destin. Les figures dans lesquelles elles étaient emprisonnées ont été elles-mêmes détruites, etc.
Mais une nouvelle servitude involontaire, quelque part. Hein? Mais une nouvelle servitude involontaire qui se met en place.
Il y a une nouvelle servitude involontaire qui est le service de la puissance existante. Voilà. Elles sont tentées, on les pousse à être tentées de s'insérer purement et simplement dans le régime actuel de la puissance, qui est une puissance en quelque sorte non symbolique, qui est une puissance matérielle, effective, monétaire, dirigeante, et un certain nombre d'entre elles choisissent de jouer le jeu de cette puissance. Je pense qu'on ne peut pas laisser de côté un point aussi essentiel que le fait qu'aujourd'hui, les filles réussissent infiniment mieux le parcours scolaire que les garçons. Cela aura des effets considérables.
Alors quand même, pourquoi est-ce que les garçons et les filles vivent différemment ce moment de fin du symbolique? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont affectés différemment, plus précisément?
Ils sont
Les garçons sont infantilisés et pourquoi les filles sont tout d'un coup deviennent générales d'armée?
Ouais. Mais c'est tout à fait simple. C'est parce que l'ordre symbolique antérieur était hiérarchique sur ce point, de manière fondamentale. C'est-à-dire, il dessinait, il organisait une supériorité masculine. Il n'y a pas de doute. Et donc, après tout, les filles trouvent dans le monde tel qu'il est aujourd'hui un certain nombre d'avantages nouveaux, d'avantages précédemment inconnus. Il est donc assez normal que leur réaction à ce monde ne soit pas la même que celle des garçons. Pour les garçons, il y a une désorientation liée au fait que la valorisation de la masculinité, dont le paradigme était militaire, disons les choses comme elles sont. D'ailleurs, l'homme était le guerrier protecteur de la société. Même, c'était encore le cas lorsqu'on le mobilisait pour le faire massacrer dans la guerre de 14. Il était le gardien du pays, le gardien du foyer, etc. Bon, ça, c'est mort, ça n'existe plus. Il n'y a plus que l'aventure personnelle et économique, politique, etc. Alors ça, c'est pour les garçons, c'est une désorientation. Pour les filles, c'est autre chose. Pour les filles, il y a un gain réel. Il y a un gain qu'on ne peut pas sous-estimer, et donc leur appréciation de la crise du symbolique n'est pas la même. Ceci étant, je pense que pour l'instant, la symbolisation de la différence elle-même est devenue floue, et qu'à long terme, ce sera quelque chose d'un peu égaré, d'un peu perdu, si il n'y a pas, justement, une figure égalitaire. Mais quand je dis égalité, ça n'est pas du tout contre la différence, mais au contraire pour elle.
Si l'on fait un peu de science-fiction, écrivez-vous, on pourrait peut-être prévoir tout simplement la disparition du sexe masculin. Il suffirait pour ça de congeler le sperme de quelques dizaines de millions d'hommes, ce qui représenterait des milliards de possibilités génétiques. La reproduction serait ainsi garantie par l'insémination artificielle. On pourrait alors exterminer tous les mâles.
Ah bah c'est
un fantasme.
C'est aujourd'hui une possibilité objective. C'est une possibilité objective. La transformation de l'humanité en un peuple d'abeilles.
C'est un fantasme féminin. Est-ce que c'est un fantasme de philosophe? Je ne sais pas.
C'est un peu comme un conte. Enfin, c'est un peu comme une fable. C'est un peu comme les mythes de Platon. Ça, c'est pour faire peur, hein, pour faire peur à tout le monde.
Alors, pour s'en préserver ou peut-être de pas arriver à une fin de science-fiction aussi terrible pour vous, messieurs, vous incitez les femmes à passer dans l'entre-deux. Et c'est pareil pour les garçons. Hein, mais c'est-à-dire cet entre-deux qui serait ni la tradition ni le contemporain dominant. Et on a l'impression que ne trouve grâce à vos yeux, finalement, Alain Badiou, que ces disciplines, ces champs de liberté, d'émancipation que vous avez approchés vous-même, la poésie, le théâtre, les mathématiques, la philosophie, j'en oublie certains.
La politique.
Voilà, la politique, exactement, l'engagement.
Pas celui-là. Oui, ben ça c'est la description finale, c'est-à-dire pour autant qu'on voit à quoi on peut raccrocher le parcours d'un sujet aujourd'hui, ben on tombe sur ce qui, de toute évidence, conserve une certaine valeur universelle. Voilà. Et tant qu'il n'y aura pas une grande symbolisation égalitaire reconstituée, tant que l'aventure personnelle restera liée à la concurrence planétaire, eh bien l'abri sera de ce côté-là. C'est vrai.
France Culture, il est 13h15, c'est la deuxième et dernière partie de cette grande table avec le philosophe Alain Badiou qui signe en cette rentrée La Vraie Vie dans la collection Ouverture que vous dirigez également chez Fayard.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Face à cette crise, Alain Badiou, deux voies actives, selon vous, deux réactions extrêmes, voire conservatrices, le désir d'Occident, qui fait l'apologie illimitée du capitalisme et des libertés vides, et le désir réactif d'un retour à la symbolisation traditionnelle, c'est-à-dire hiérarchique. Et ça peut donner, par exemple, concrètement, les sectes protestantes aux États-Unis, l'islamisme radical et réactif au Moyen-Orient. En somme, Alain Badiou, vous ne plaidez pas pour autant pour ce retour aux vieilles hiérarchies? Vous l'évoquiez. Alors, quelle issue possible? Finalement, vous préconisez quoi, Alain Badiou?
Ce que je préconise, c'est une réactivation de la possibilité générale d'une deuxième voie symbolique dans le monde tel qu'il est. Et par conséquent, le refus catégorique de considérer l'état des choses actuelles, c'est-à-dire la mondialisation capitaliste et les formes variées du régime parlementaire, comme la fin de l'histoire. Voilà.
Vous ne dites pas troisième voie, vous dites deuxième voie. La troisième voie, c'est trop Tony Blair, c'est trop social-démocrate.
C'est-à-dire que effectivement, ça fait un peu centriste, hein, qui est une figure malaisée et qui n'est pas du tout la mienne. D'ailleurs, je suis généralement plutôt accusé d'être un terrible extrémiste que d'être un centriste. Bon, ce serait une protection pour moi d'être un centriste, mais elle n'est pas très intéressante. Je dis une troisième voie parce que, d'une certaine façon, nous sommes dans un monde où ce qui est caractéristique, c'est l'existence et l'activité, y compris guerrière et criminelle, de ce que j'appellerais des fausses contradictions. En réalité, tout le monde est interne au capitalisme concurrentiel mondialisé. Même l'État islamique est un État commerçant qui vend toutes sortes de choses à bon prix, à beaucoup de clients. Hein. Donc tout le monde est interne à cela, mais à l'intérieur de cela, il y a les nostalgiques de l'ordre hiérarchique ancien, et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut s'accommoder de l'état des choses existant, c'est-à-dire des libertés moyennes du monde occidental. C'est pour ça que je parle de troisième voie, mais en réalité, cette troisième voie doit nécessairement s'opposer à la totalité des deux termes primordiaux. C'est pour ça qu'elle n'est pas entre les deux, elle est au-delà des deux. Hein.
Et alors, question justement qui se pose, parfois aux terribles extrémistes que vous êtes, comme vous direz vos proches ou vos amis, ceux qui restent problématiques chez Alain, certains vous reprochent d'avoir justifié, ou en tout cas de ne pas avoir condamné le pire dans vos engagements, et se demandent finalement qui vous êtes, d'où vous parlez, pour nous donner de telles leçons de sagesse aujourd'hui. Vous leur répondez quoi?
Bon, je ne fais que mon métier de philosophe, hein. C'est tout. Hein. Si on se réclame de la philosophie et qu'on est hors d'état de donner des leçons quelconques, c'est pas la peine.
Hein. Alors là, c'est le philosophe qui parle, c'est pas le politique ou le citoyen engagé ou le philosophe militant.
Non, mais si je parle en fonction de l'engagement, je peux tout à fait décrire ce qu'il est. L'engagement, il consiste à essayer, vaille que vaille, de réintroduire dans le monde une hypothèse alternative et que je n'ai pas trouvé de meilleur mot que le mot communisme. C'est pour ça que c'est ce que je soutiens.
Communisme, égalité universelle, reconstitution d'un symbolique à partir de là, mais sans qu'il y ait une collectivité qui se forme pour défendre cette idée, comme si les choses allaient pouvoir se déclencher par des réflexes individuels, des jeunes notamment, que vous appelez dans votre livre.
Il y a quand même une alliance que vous souhaitez entre deux générations, les plus vieux et les plus jeunes.
Hein. Et comment, pour finir la question, vous dites le capitalisme, nous sommes de vivre sans idée. Il faudrait faire ressurgir une idée, effectivement, une pensée. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que tout cela peut se produire spontanément ?
Je pense pas que ça va se produire spontanément à proprement parler. En particulier, je ne suis pas du tout opposé. Je suis convaincu qu'il faudra des protocoles de collectivité, d'organisation, etc. Mais si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 1840, auxquelles nous ressemblons plus que nous ne le savons, dans les années 1840, il y a eu, jusqu'aux années 1850, il y a eu des soulèvements, des émeutes, les révolutions de 48, et puis elles n'ont rien donné, en fait, elles ont toutes absolument échoué. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, par exemple, des gens comme Marx sont allés puiser dans la philosophie hegélienne des leçons, ils ont écrit un manifeste, etc., où beaucoup de choses du monde contemporain sont déjà perceptibles. Donc tout commence quand même par les idées. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez reconstruire une organisation symbolique, le niveau politique viendra quand il pourra venir. Ça, c'est un fait. Et il n'est venu, y compris dans l'histoire concrète du communisme, que très tardivement, au regard de la prédiction de Marx.
Encore faut-il qu'il y ait encore des sujets, précisément, pour faire cette cristallisation politique.
Absolument. Et il faut que des sujets se constituent dans l'élément de la conviction personnelle et collective, par voie de conséquence, la conviction militante de la nécessité de la reconstruction d'un ordre symbolique différent, d'un ordre symbolique égalitaire. Mais nous sommes, je dis souvent, une situation intervallaire. C'est-à-dire l'expérience de cet autre monde a été faite et a échoué. Elle a échoué dans des conditions tragiques de surcroît. Et ce faisant, le monde du capitalisme conquérant s'est installé comme monde unique. C'est ça la situation. Et comme le dit quelque part un personnage de Ibsen, la vieille beauté est morte et la nouvelle vérité n'est pas encore venue. Hein.
Et vous terminez sur ces mots-là. Mais qui est justement cette avant-garde alors qui peut nous éclairer ou éclairer cette jeunesse sur le chemin de ce nouveau monde ?
Alain Badiou, combien de divisions en gros, c'est ça ?
Alors là, si vous me demandez combien de divisions, je vous dirais que les grandes aventures de l'histoire ont commencé en général avec des divisions extrêmement restreintes. Bah, le Parti communiste chinois a tenu son premier congrès après la Première Guerre mondiale dans une jonque où tenaient 11 personnes. Trotsky raconte une histoire admirable au moment de déclenchement de la guerre de 14, quand il y a eu en Suisse le ralliement de ceux qui s'opposaient à la guerre mondiale, qui étaient au-dessus de la mêlée, Romain Rolland et les autres, et il a dit qu'ils tenaient tous dans deux taxis, n'est-ce pas ? Alors, moi, le nombre ne m'effraie pas. Le nombre sera ce qu'il doit être dans les conditions du moment. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au début de quelque chose. C'est quand même ma conviction. Nous sommes au début de quelque chose. C'est pas simplement parce que j'écris un livre que l'histoire va trembler, ça je ne crois pas ça, mais néanmoins, je pense que nous sommes à un moment où le défaut de symbolisation, la conviction que le monde tel qu'il est va à une sorte inconnue de désastre, et la conviction qu'on ne s'en sortira qu'avec la réintroduction d'un minimum de convictions égalitaires, je pense que cela progresse.
Alors, l'égalité, ou plutôt effectivement travailler à l'invention d'une symbolisation égalitaire, c'est ce nouvel horizon que vous offrez, comme on parle de s'offrir une seconde jeunesse à notre jeunesse aujourd'hui. Étonnamment, Alain Badiou, là où on ne vous attendait pas, vous qui faites partie des icônes de la gauche radicale, c'est surtout ces élans nouveaux de la jeunesse anticapitaliste, comme Occupy Wall Street, dont vous critiquez directement dans cet essai La vraie vie, le mot d'ordre prétendument unificateur de Nous sommes les 99%, ou encore, mais là vous n'en parlez pas dans l'essai, Podemos, Nuit Debout, qui sont certes pour vous des symptômes nouveaux, mais vous déplorez qu'ils se fassent dans un cadre officiel. Il y aurait comme une trahison inhérente à tout ce qui naît, tout ce qui jaillit aujourd'hui dans la production de contre-symboles.
Non, c'est une aventure très connue, il ne faut pas la prendre comme une exception terrible. Regardez le propos général de l'émancipation tel que le marxisme l'avait proposé. Pendant tout un temps, ça s'est ensablé dans les partis sociaux-démocrates. Le parti sociaux-démocrate allemand qui a même été incapable de s'opposer à la guerre de 14. Donc il y a toujours des premières réalisations d'une entreprise générale de ce type qui est décevante ou qui est trop encore engagée dans le monde tel qu'il est. Ça n'a rien de stupéfiant. Une expérience sur laquelle je témoigne dans un livre, alors qui s'appelle Le Parcours grec, un autre livre qui est très significatif à cet égard, c'est l'aventure de Syriza en Grèce. L'aventure de Syriza qui fait campagne précisément sur les thèmes de la nouveauté, de l'hostilité aux vieilles procédures, etc. Et qui, jouant le jeu de ces procédures, finit finit par se constater que si on joue le jeu de ces procédures, ben, faut faire comme tout le monde. C'est-à-dire, il faut obéir aux lois du monde.
Et vous n'avez pas été dans le journal d'Antoine Mercier il y a une grosse demi-heure, mais vous avez été aussi critique envers Bernie Sanders aux États-Unis, estimant que de toute façon, les jeux étaient déjà faits, qu'il allait finir par appeler à voter pour Hillary Clinton, vous n'y aviez pas vu, en tout cas, une source d'espoir.
Non, mais c'était pas une hostilité à Bernie Sanders, qui était parfaitement sympathique, et l'ensemble de mes amis aux États-Unis étaient heureux qu'il y ait la candidature de Bernie Sanders, et ça, je les comprenais très bien. Simplement, je savais qu'à un moment donné, Bernie Sanders allait être obligé de dire « votez pour Hillary Clinton ». Et donc, ça, c'est une manière d'être trop intérieur à l'extériorité, si je puis dire.
Sympathique dans la bouche d'Alain Badiou, c'est un peu tiède. Antoine Mercier.
Oui, il y a quand même un contraste entre votre vision politique que vous développez ici et, je dirais, votre vision métaphysique ou religieuse même, puisque vous nous parlez de l'ordre de la création, de l'ordre de la loi, du nom du Père. Vous vous inscrivez malgré tout à la fois dans Platon, mais aussi dans le christianisme, etc. Toutes ces notions-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont aussi arrivées à leur terme, qu'elles doivent être renouvelées, ou est-ce que vous êtes toujours partisan de vous en inspirer ?
Vous savez, je crois que l'histoire des idées est une histoire à très longue portée. Elle ne se joue pas dans des temps brefs, dans des temps courts. Il est parfaitement évident que l'ensemble des problèmes posés par la philosophie au cours de son histoire... c'est pas un hasard si on les réenseigne en faisant lire aux gens Platon ou Kant ou Hegel. Il faut pas croire à la nouveauté radicale des choses. Une seule chose est absolument neuve, je crois, c'est la conquête du monde par le capitalisme à partir du 19e siècle. Ça, c'est une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité qui l'a fait sortir du règne hiérarchique d'un symbolique qui fige les choses et prétend les perpétuer. Il y a dans le capitalisme une puissance de novation, de transformation, etc. Ceci nous impose de rectifier les critères anciens de la pensée politique et morale, et c'est ce qui est en train de se faire, c'est ce que nous faisons. Donc, je répondrai à votre question. Oui, bien sûr, nous accomplissons toujours, en un certain sens, le vœu philosophique que la société soit plus juste et que les pensées soient plus vraies. Voilà, on est toujours
vous êtes,
là.
Vous êtes dans une pensée messianiste, par exemple ?
Non, je pense pas. Sinon, je vous dirais ce que j'annonce. Mais je n'annonce rien. Je pose un problème fondamental qui est comment sommes-nous capables de substituer à la logique générale de la concurrence qui nous mènera un jour ou l'autre à l'abattoir, une logique de l'égalité symbolique.
Voilà. Vous n'annoncez rien, Alain Badiou, mais vous vous devez quand même, vous devez à cette jeunesse que vous appelez à ouvrir les yeux, de terminer peut-être par une touche d'espoir. Donc on reprend ces quelques mots, ce poème de Rimbaud. Quelle vie, la vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde. Extrait donc de ces délires, des délires de la Vierge folle. Comment vous poursuivez ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous avez ajouté à cela ?
Je pense que je serais très très humble à regard de Rimbaud, parce que si, après avoir lu cette citation dont je me suis constamment inspiré, on lit le poème Génie, on s'aperçoit de l'autre versant de Rimbaud, c'est-à-dire de son espérance irréductible à travers ce qu'il appelle génie, qui est presque insaisissable, d'une sorte de vent, d'espérance, de souffle, qui précisément est celui de l'égalité neuve.
Et ce génie se trouve partout.
Et ce génie, lui, il dit, il est partout.
Dans la poésie, dans le théâtre.
Voilà, dans la poésie, dans le théâtre, dans les mathématiques, dans la politique. Et finalement, je pense aussi dans les levées de la jeunesse qui commencent et qui continueront.
Et à la radio.
J'espère aussi.
Il y a eu un silence quand même. Merci beaucoup Alain Badiou. La vraie vie vient de paraître chez Fayard dans la collection Ouverture avec un S. Attention, un grand merci à vous Antoine Mercier pour ce co-entretien avec Alain Badiou. Sur le fil des réseaux sociaux aujourd'hui, il y avait Farah Kéram, car la grande table, et oui, ce tweet et ce like. Merci à elle. Et elle s'écoute aussi, la grande table, sur franceculture.fr en différé, si vous le souhaitez. Aux manettes ce lundi, Jean Reynaud avec Stéphane Poitevin. Émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie, par Jean-Christophe Brianchon et par Henri Leblanc, avec l'aide d'Inès McGriff.